Louis Martin est un homme qui a été souvent contesté et déformé par les médias, qui ont repris sans esprit critique certains clichés lancés par des romanciers ou des psychiatres. On en a fait un homme assez falot, qui aurait voulu être moine et qui, par les circonstances, s'est retrouvé marié et père de famille. Un pieux rêveur qui laissait sa femme travailler, s'acharner au travail, tandis qu'elle allait paresseusement à la pêche et qui, veuve, s'est contenté de vivre de ses rentes. Enfin, on en a fait bien souvent un malade, finissant lamentablement sa vie dans un asile d'aliénés à cause d'une paralysie dont l'origine, dit-on, aurait été une syphilis qu'il aurait contractée en allant faire la noce à Paris. Bon. L'une d'entre vous, d'ailleurs, m'a écrit un petit mot pour me dire qu'est-ce qu'il faut répondre à tout cela. Eh bien, rétablissons la vérité. Le papa de Louis Martin, qui était devenu soldat en 1799, caporal l'année suivante, sergent en 1807, avait gagné ses galons d'officier en faisant lui aussi toutes les campagnes de Napoléon, toutes les campagnes de Prusse et de Pologne. Il revint en France comme lieutenant en 1814. Capitaine en 1815, il épouse en 1818 une demoiselle qui a 23 ans de moins que lui, une jeune Fanny, et non pas Sophie, Fanny Bourreau, qui était elle-même fille d'un officier qui avait été fait prisonnier en Sibérie parce qu'il avait repris du service actif en 1812. Bref, vous voyez, on vit vraiment dans un climat militaire. Il faut bien ne jamais oublier que Thérèse a deux grands-pères militaires qui ont fait les campagnes de Napoléon et qui ont raconté énormément cela. Il y a tout un aspect militaire chez Thérèse. Hein, vous savez qu'elle a joué deux fois le rôle de Jeanne d'Arc après avoir composé deux petites pièces de théâtre en son honneur. « Je veux t'aimer comme un petit enfant, je veux lutter comme un guerrier vaillant », dit-elle dans l'une de ses poésies. Louis est le troisième de six enfants qui naîtront de ce mariage. Mais tous les autres enfants finiront par mourir, si bien que Louis va se retrouver le seul enfant survivant de la famille. Il est enfant de troupe de 6 à 7 ans, comme cela arrivait assez souvent. L'école des enfants de troupe est une école qui a été fondée par Louis XV pour les fils d'officiers ou de sous-officiers. Et en arrivant à Alençon, il continue ses études chez les frères des écoles chrétiennes. C'était un garçon méthodique, calme, soigneux, méditatif, amoureux de la nature, ne s'affolant pas, un caractère très posé, et l'on comprend aisément qu'il se soit orienté vers le métier d'horloger. Surtout que plusieurs amis de son papa étaient horlogers. Donc à 19 ans, il s'oriente vers le métier d'horloger qui correspond à sa nature. Calme, silencieux, méthodique, ordonné. Il a aussi un côté artiste, il dessinait très bien. Il aimait se retrouver dans la nature et en plus, il avait une voix magnifique et une mémoire extraordinaire pour retenir par cœur des poésies que plus tard, il récitera au buissonnet à ses enfants. Donc, il va à Rennes apprendre le métier d'horloger chez un cousin germain de son papa. Puis, changeant d'aile, il va à Strasbourg chez un ami de son père où il va beaucoup se perfectionner dans l'art de l'horlogerie et une fois de plus, il va montrer que c'est un costaud. Il a failli se noyer en portant secours au fils de l'horloger chez lequel il apprenait le métier. Bon. L'autre s'est tellement agrippé à lui qu'il a failli l'emporter vers le fond, mais il a réussi à le sauver. Plus tard, il n'hésitera devant rien. Hein. Par exemple, une femme a failli être brûlée en face des buissonnets à cause d'un incendie qui s'était déclaré. Il a traversé la fumée pour aller la rechercher. Et c'était un costaud. Donc, il commence à rédiger pendant son adolescence des cahiers sur lesquels il recopie d'une écriture très soignée des textes spirituels et littéraires. C'est une chose que l'on faisait encore à mon époque, comme la photocopie n'existait pas. Quand on trouvait un beau texte, on le recopiait. Hein, je connais un prêtre qui connaît presque Pascal par cœur à force d'avoir calligraphié dans sa jeunesse de textes de Pascal. Eh bien, c'est ce que faisait M. Martin. Il apprécie particulièrement les passages où les romantiques chantent leur amour de la nature. Fils de militaire, il aime les héros patriotiques, Du Guesclin, Coligny, Jeanne d'Arc, mais il aime par-dessus tout les auteurs spirituels. À Strasbourg, il prend contact, on n'est pas loin de la Suisse, et il y va non pas pour les montres de la Suisse, mais parce qu'il sait qu'il y a là-bas une communauté de religieux, les moines du Grand Saint-Bernard, qui, à une époque où les CRS n'existaient pas pour sauver les naufragés de la montagne, se spécialisaient dans le secours aux montagnards perdus. Donc, il a envie de mettre ses forces physiques et sa générosité au service des naufragés de la montagne. Vous avez peut-être déjà vu des cartes postales de ces moines qui, à Soutane, en soutane et à ski, vont avec leur chien de Saint-Bernard au secours des naufragés. Seulement, à l'époque, pour devenir moine, pour devenir religieux, il fallait apprendre le latin. Alors, il achète une grammaire latine, un dictionnaire, il prend 120 leçons de latin, on a retrouvé les factures de toutes ces leçons, mais il a buté devant la difficulté d'apprendre la langue. Là encore, heureusement, sinon on n'aurait pas eu le père de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, il se spécialise de plus en plus en horlogerie, il va à Paris, on ne sait pas, pendant 2 ou 3 ans, pour se perfectionner tout à fait dans cet art. Et pour le dire tout de suite, ce sera un horloger extraordinairement apprécié. Quand M. Martin réparait une horloge ou une montre, on en avait pour 50 ans. C'est vrai que ce n'était pas non plus certains gadgets d'aujourd'hui. Donc, à Paris, il fréquente énormément la basilique Notre-Dame des Victoires, cette basilique qui se trouve pas loin de la Bourse à Paris, en plein sur la rive droite. Donc, il s'établit comme horloger à Alençon en achetant la maison et l'horlogerie de la rue du Pont-Neuf pour 6000 francs or. Une certaine Félicité Baudouin, une demoiselle d'Alençon qui appréciait ce jeune homme sans avoir du tout l'envie de l'épouser, elle était beaucoup plus âgée que lui, l'aide à acheter son horlogerie et lui offre cette fameuse statue qui deviendra plus tard le centre de la prière familiale de la famille Martin, la fameuse Vierge du Sourire, dont l'original se trouve au-dessus de la chasse de Thérèse à Lisieux, puisque c'est devant cette statue que plus tard la petite Thérèse sera guérie miraculeusement à l'âge de 10 ans. Donc, horloger, il réussit très bien. Au bout d'un certain temps, il achète un fonds de commerce de bijouterie. Il va devenir horloger bijoutier, mais il refusera toujours d'ouvrir son magasin le dimanche, malgré la pression de beaucoup de cathos qui lui dit « tu perds un argent fou, puisque le dimanche, c'est le moment où les gens ont le temps d'acheter ». Il dit « pas de question, je suis fidèle au repos dominical ». Et malgré tout, son commerce prospère. Il ne se contente pas d'aller à la pêche, comme on le dit parfois. Il avait beaucoup de relations. Il fréquente le cercle Vital Romé, qui était en quelque sorte le cercle d'action catholique de l'époque, où il retrouve quelques jeunes catholiques convaincus et où il aime beaucoup jouer au billard. Sa mère, qui a perdu 4 enfants et qui n'a plus d'autre fils que Louis, bientôt une sœur va mourir aussi, cherche à le marier. À l'école d'hôtelière, je vous l'ai dit, elle a remarqué une jeune fille de 26 ans qui lui semble avoir beaucoup de qualités humaines et professionnelles, Zélie Guérin.